découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Les histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Qu'est dit la loi congolaise à propos de la falsification des documents? Maître Ruffel Louko, bonjour.
Bonjour.
Et bon début de semaine.
Merci également. Et la même chose pour tous nos auditeurs.
Voilà, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Oui. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la falsification des documents. Comment la loi définit cela?
D'abord, principalement, la falsification des documents, c'est ce qui constitue aujourd'hui plus de 70% des procès en ce qui concerne les contentieux fonciers et immobiliers congolais. Ce phénomène est tellement récurrent que nous avons d'ailleurs consacré des études sur ça. Mmh. Et là, si vous vous rappelez que dans l'ordinateur qu'on m'a volé, les livres étaient déjà fait imprimer, les faux en écriture.
Tout est parti.
Donc, l'enquête continue avec la police. Mais sinon, qu'est-ce que la falsification de documents? Alors, parce que c'est un phénomène qui remonte depuis longtemps, les législateurs, n'est-ce pas, avaient ciblé ça pour l'incriminer. Et le législateur a appelé ça les faux en écriture.
Faux en écriture.
Vous appelez ça falsification de documents. Mm-hmm. Eh bien, dans l'ensemble, ce qui est puni dans cette falsification de documents est libellé par le code pénal à ses articles 124 à 127 des faux en écriture. Alors, ces faux est commis d'abord par les particuliers, nous tous, malveillants. Vous voulez vous accaparer de la parcelle d'autrui où vous êtes illettré, vous voulez vous doter d'un diplôme, vous allez à Djili, vous allez à Kadutu, vous allez à Katuba,
vous allez fabriquer un diplôme.
Et vous allez à Mouya, Mbujimayi, vous allez à Mvuzi, à Matadi, vous fabriquez un diplôme.
Oui.
Alors, il y a plusieurs variétés de la manifestation de ces faux. Ça peut être le titre ne repose pas ou ne porte pas votre nom, vous insérez votre nom. Alors, par exemple, le propriétaire du titre porte le nom de Norbert, le prénom de Norbert,
oui.
Mabiala, et vous appelez Norbert Mabiala, mais vous, le changement c'est par rapport, n'est-ce pas, au post-nom. Et vous insérez. Donc, il y a plusieurs variétés. Alors,
il y a même, à un certain moment, on parlait même de falsification des passeports.
Tout ça, c'est dans l'ensemble des faux. Donc, lorsqu'il y a falsification, voici comment le législateur, en son article 124 du Code pénal, a posé le principe. Les faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans. Ça, c'est le faux. Alors, que signifie faux en écriture? Alors, si je peux rapidement définir qu'est-ce qu'un faux en écriture, le faux en écriture est l'altération de la vérité dans un écrit, quel qu'il soit, réalisé avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et susceptible de causer un préjudice. Donc, le faux en écriture, c'est principalement l'altération de la vérité.
Altération de la vérité
dans un écrit, quel qu'il soit, réalisé avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et susceptible de causer un préjudice à tout le monde.
Alors, à quiconque. Oui, vous dites que c'est tout le monde, c'est presque tout le monde qui est concerné par cette infraction.
Tout à fait.
Mais particulièrement les agents de l'État.
Et ça c'est le principe d'abord qui frappe tout le monde.
Oui.
L'article 124. Mais en ce qui concerne les agents de l'État, voici ce qu'il pose. Il dit, 125, si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pourra être portée à 10 ans.
De prison ferme.
Oui, il y a 10 ans de prison ferme. Vous voyez, non, on aggrave la situation parce que c'est un fonctionnaire de l'État. C'est un agent, c'est un officier ministériel. Donc, c'est un agent public en qui tout le monde fait confiance. Si lui commet ces faux-là, eh bien, la peine n'est plus de 2 mois à 5 ans. Eh bien, c'est désormais, la peine initiale, c'est de 6 mois à 5 ans. Mmh. En ce qui les concerne, ça sera jusqu'à 10 ans.
Alors, quand on parle de faux dans l'écriture, c'est quoi? Limitation des signatures ou bien changement de nom? C'est quoi exactement?
D'abord, l'altération de la vérité. Alors, cette altération de la vérité peut consister, l'altération de la vérité, donc changer la vérité, altérer la vérité dans le sens négatif. Vous pouvez soit diminuer cette vérité, soit l'amplifier. Tout ça, vous avez altéré la vérité qui doit être constatée dans l'écrit. Qu'est-ce que signifie altérer la vérité? Maintenant, c'est ce que vous voulez pour que nos auditeurs comprennent.
Voilà, allez-y.
Dans une altération de la matérialité de l'écrit. Non, l'altération de la vérité peut consister dans l'altération de la matérialité de l'écrit.
Qu'est-ce que cela veut dire en termes beaucoup plus simples?
Par exemple, oui. Ton diplôme, tu as réussi avec ton diplôme de graduat ou de diplôme d'état ou de licence, tu as réussi avec
50%.
Avec 50%.
Oui.
Mais tu transformes ça, tu grattes, tu fais 90%. Ou 80. Ça, c'est l'altération de la vérité.
Oui.
Ou bien, par exemple, ta parcelle est de 25 sur 30. Mmh. Mais tu grattes et tu transformes ça à 30 sur 80.
Mais il y a certains qui grattent et vous n'allez même pas
vous rendre compte. Je vous donne cette précision qui se trouve dans cet ouvrage.
Oui.
Dans une altération de la matérialité de l'écrit, tel qu'un grattage, voilà ce qui te concerne, une surcharge, une insertion après coup d'une fausse clause. Donc, après que le document ait été établi officiellement,
on va insérer autre chose.
Vous insérez quelque chose.
Oui.
Ça peut être aussi la date de naissance, et là, vous parlez de passeport. Mmh. Donc, c'est tout cet ensemble. Sur le passeport, ça peut être, vous insérez la photo.
La photo, bien sûr. Ouais.
Alors, on a déjà établi le passeport normalement. Oui. Il y a même un visa. Vous récupérez ça. Bon, évidemment, aujourd'hui, ça devient compliqué parce que c'est maintenant.
Avec le passeport biométrique.
Biométrique. Ouais. À l'époque, là, il y avait encore des photos, des passeports qu'on amenait. C'était si courant et si facile.
Et il y a même des réseaux, des frappeurs qu'on avait, des gens qu'on appelle.
Cet ensemble, ces frappeurs là, évidemment, lorsque si ça mêle, ça devient une association de malfaiteurs pour attenter au biais. Donc, cet ensemble-là, c'est principalement les différentes manifestations, n'est-ce pas, de l'altération de la vérité. Alors, deux, l'altération de la vérité peut consister dans une altération des énonciations de l'écrit, sans que dans sa matérialité, celui-ci soit établi.
Maître Ruffin, on y revient tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Et que dit la loi congolaise à propos de la falsification des documents? Appelez-nous au 081 890 63 94 pour participer.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19 heures, bienvenue dans Okapi Soir.
Que dit la loi congolaise à propos de la falsification des documents? Fidel Kadanga nous appelle des Kananga, au Kasaï occidental, et Christian Gabou est à Kpandroma, en province orientale. Fidel, bonjour.
Bonjour, je dis, c'est Fidel depuis le home de Tétien-Atana.
On vous écoute, Fidel.
Merci de la parole. Bon, j'avais une préoccupation qu'il fallait d'abord expliquer à notre invité, puis vous poser une petite question. J'ai fait mon stage dans une école de la place. J'ai posé les interrogations de la première période, j'ai corrigé, j'ai communiqué les points aux enfants. Mais il y a deux cas qui m'est arrivé. Il y a un enfant qui avait échoué, qui avait 1 point sur 20. Il y a l'autre qui avait, 10 points sur 20. Lorsque j'ai renvoyé les fiches de points chez le directeur des études, le directeur des études a transmis aussi à son tour au titulaire. Le titulaire est allé. L'enfant qui avait 1 point, il a ajouté 0 à la fin, ça fait 10 sur 20. Et l'autre qui avait 10, il a réduit, il a enlevé 0, il est resté avec 1 point. Lorsqu'on a proclamé, les enfants sont revenus vers moi. L'autre était honnête, il a dit, non mais écoutez, stagiaire, moi j'avais 1 point, mais je trouve 10 points dans le bulletin, d'où est venu ça. L'autre dit, mais moi j'avais 10, mais je trouve 20 points, d'où est venu ça. Lorsque j'ai remis ce dossier pour le directeur des études, il l'a transmis aussi au préfet. Le préfet a dit, mais écoutez, bon, le stagiaire n'a pas tellement les droits de suivre les courses et tout ça. Mais les enfants m'ont brouillé pour ce dossier-là.
Les enfants de quelle classe sont?
Les enfants de 4e année sociale.
Oui.
Et je voulais demander à notre invité, est-ce que parmi les documents qu'on ne veut pas falsifier, est-ce que les fiches de fonds aussi on ne veut pas falsifier? Et pour ce problème-là, qu'est-ce que je devrais faire pour me défendre devant les enfants de me déranger. Merci la radio, Kassi.
Merci, fidèle. Christian Gabou de Panorama, bonjour.
Monsieur, je dis Kachama, bonjour, invitez notre auditeur de Panorama également.
On vous écoute.
Et ma préoccupation, c'est d'abord la falsification des documents. Cela ne se passe pas seulement chez des individus, n'importe comment, mais ça se passe en collaboration avec certaines autorités, telles que quand ils sont corrompus, qu'il faut des documents aux agents. Alors maintenant, par exemple, un agent des titres immobiliers, il fait un document pour une personne pour s'approprier soit de la parcelle de son voisin. Alors maintenant, moi, je voulais savoir seulement quel sera le procès de ces deux gens-là, comment la justice va trancher pour celui-là et celui qui a fait le document pour la personne.
Merci, Christian. Ami Sifataki de Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur Zidi, bonjour à l'invité, bonjour à tous.
On vous écoute.
Oui, je voudrais demander deux choses seulement à l'invité.
Oui.
La première était de savoir qu'en est-il des étudiants qui sont dans de... comment on dit, les étudiants finalistes qui veulent terminer, mais avant de présenter leur travail, il y a ceux-là qui demandent le travail de Lumbashi de Kinshasa, et dès que ça arrive ici chez nous à Kindu, ils changent uniquement les noms, et comme c'est l'habitude, les travaux doivent uniquement passer, et ils défendent et ça passe. Je voudrais savoir dans ce sens la position du législateur par rapport à cette falsification.
Voilà.
La deuxième question était de savoir,
oui,
quelle est la différence qui existe entre le faux et usage des faux. Voilà, monsieur Jody.
Merci, maître Yusuanouko.
Merci beaucoup. On va commencer d'abord par la question de l'auditeur de fidèle de Kananga,
mm-hmm,
qui parle des fiches de côte. Non, en tout cas, je suis enseignant comme lui dans certaines universités de la République.
Mm-hmm.
Non, là, c'est encore plus grave et c'est pas tant et c'est très souvent d'ailleurs. Donc, en ce qui concerne les universités, si les enseignants ont déjà déposé leurs notes, qu'on appelle chez nous côte, et que le secrétaire du jury se permet de surcharger les côtes. Je sais qu'à l'université de Goma, le recteur de là a radié carrément, a révoqué des assistants qui ont procédé à la chose.
Oui.
Parce que tout simplement, ils ont gratté des côtes, semble-t-il, moyennant fromage, moyennant kilo de la viande.
Mm-hmm.
Il a surchargé, falsifié les côtes. Il a été révoqué. Ils sont nombreux d'ailleurs qui ont été révoqués.
Oui.
En ce qui concerne ça, monsieur Fidèle, ça c'est une fois en écriture et il fallait en principe aller vous plaindre parce que ça vaut annulation de toute la cotation ou de toute cette façon-là de falsification de toutes les cotes, mmh, par celui qui l'a fait et il est coupable. Parce
mais lui,
il est aussi agent de l'État.
Il était stagiaire à ce moment-là et les élèves de 4e social allaient le voir pour lui dire non, monsieur, c'est pas ça qu'on a eu.
Oui, mais alors il devait se plaindre auprès du directeur de l'école ou bien du préfet pour que l'on puisse redresser. Il ne s'est pas plaint, c'est dommage. Il aurait dit se plaindre, ça serait bien en ce qui le concerne. Alors, la question suivante, j'ai ici la question de...
Les Christians
d'abord.
Oui, qui dit ceci, un monsieur qui va voir un agent de l'État pour se faire fabriquer un titre immobilier afin d'arracher la parcelle du voisin.
C'est ça le plus souvent chez les conservateurs, chez le cadastre, tout ce qui délivre les documents parcellaires.
Les certificats d'enregistrement.
Les certificats d'enregistrement, les contrats de location de la République, mm-hmm, et tous les autres documents en ce qui concerne, n'est-ce pas, les propriétés sur les immeubles, aussi les fonds fonciers.
Mm-hmm.
Eh bien, ce sont des particuliers qui, en collaboration avec les officiers, c'est-à-dire ces agents-là de l'État, font des documents. Eh bien, ils sont condamnés. Alors, je vous informe, en même temps que d'ailleurs, la Cour suprême a récemment condamné un ministre des Affaires foncières. Nous avons cet arrêt-là et ça fait autorité. Et ministre des Affaires conseillères qui s'est fait comme ça rouler par des gens qui avaient l'argent et il a déclaré de bien sa maître des parcelles qui étaient couvertes par des certificats d'enregistrement. Alors on a démontré que non, son arrêté déclarant ce bien-là sa maître était un faux. Parce que cet arrêté a altéré la vérité pendant que sur le terrain, la parcelle était couverte par un certificat très vieux.
Mais c'est souvent, on se retrouve devant une parcelle qui a plusieurs propriétaires et chacun brandit un certificat d'enregistrement.
Mais cette superposition-là des certificats constitue, en ce qui concerne les certificats suivants, défaut en écriture, parce que c'est ce certificat-là qui se superpose, donne l'impression qu'il n'y a jamais eu. Donc, altère la vérité que non, sur cette parcelle-là, il n'y a jamais eu d'autre certificat.
Et quelle est la procédure à suivre pour...
Alors, d'abord, en ce qui concerne, ça, c'est les 10 ans, de 5 à 10 ans. Parce qu'il y a l'implication des annales d'État.
Et la procédure, c'est plainte.
Généralement, si vous passez par le parquet, c'est uniquement pour la plainte afin qu'on entende ces dialogues. Mais ce qui règle ces problèmes, c'est toujours les cours des tribunaux. Donc, il faut absolument chercher un défenseur, un avocat quelque part, pour qu'il puisse saisir directement les tribunaux, en fait que cette personne-là puisse être condamnée. Et rassurez-vous, la plupart des condamnations actuelles, selon les statistiques du ministère de la Justice, eh bien, sont généralement pour faux. En écriture.
Et Christian nous a dit que certaines autorités font cela.
Oui, non, c'est pourquoi je vous dis qu'un ministre des Affaires foncières, je ne cite pas son nom, a été condamné. Il y a même un ancien politicien qui passe dans tous les médias qui a été également condamné par la Cour suprême. Pour faux en écriture. Et d'ailleurs, ce genre de personnes, je suis désolé, je ne peux pas citer son nom ici, n'ont pas le droit de passer dans les médias alors que ce sont des faussaires. Donc, la justice, malgré tous ces problèmes qu'elle a, continue à réprimer en ce qui concerne les faussaires. Et je vous dis, je vous signale encore une fois ici, que c'est le plus grand nombre de condamnés par notre justice en ce qui concerne notamment l'infraction des faux en écriture. Alors, Amis Nekindo a posé le problème du finaliste.
Le plagiat à l'université.
Pour son TFC, son mémoire, évidemment, demande à Lubumbashi qu'on lui envoie telle mémoire.
Et il change seulement le nom. Le contenu reste le même.
Ça n'altère pas la vérité, principalement. C'est le plagiat tel que le prévoit notre loi cadre sur l'enseignement national. Et ça, la TIDIA, de son mémoire, doit être annulée. Parce qu'il a fait le plagiat. Ce n'est donc pas son travail intellectuel. Il doit être, n'est-ce pas, mal coté. Parce que tout simplement. Donc là, en ce qui concerne le plagiat, c'est prévu par la loi cadre sur l'enseignement national.
Ce travail doit être annulé.
Doit être annulé. Et donc, le TIDIA ne doit pas passer de promotion, ne doit pas être collé parce que tout simplement, c'est un faussaire.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Qu'est dit la loi congolaise à propos de la falsification des documents, ce que Maître Ruvin appelait tout à l'heure faux dans l'écriture. Malonga nous appelle des bandes de Nouville. Omar Kigalo est à Kinshasa. Rachel Njunju se trouve à Isiro, en province orientale. On démarre avec Malonga des bandes de Nouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama.
On vous écoute, Malonga.
Ok, merci beaucoup. Je remercie d'abord au commentaire de notre invité là-bas, que je salue.
Merci beaucoup.
Bon, moi, je connais d'abord, selon moi, je connais que la falsification des documents au Congo, c'est une maladie chronique de tous les régimes déjà existants dans notre pays. Ce que je vais demander, qu'est-ce qu'on peut limiter à cette hémorragie? Puisque ça nous fait aussi ridiculiser ailleurs. Si les étrangers sont dans notre pays et voient ceci, ils ne peuvent pas déclarer ça, puisque les ONG sont déjà habitués à dévaler nos erreurs. Mais ils peuvent avaler ça. Alors je demande, comment est-ce qu'on peut arrêter cette hémorragie?
Merci.
J'ai dit... Ok.
Merci bien. Omar,
oui, je peux...
Oui, vous avez une deuxième question?
Oui, je peux commenter encore.
Non, pas
bon, exemple. Je veux dire, cette négligence aussi, est-ce que on peut condamner qui? Celui qui vient falsifier, ou bien celui qui falsifie aussi? Qu'est-ce que je veux dire? À la police, au PCR, s'il vous plaît. Il y a les PCR qui arrêtent les chauffeurs. Ils ont des faux documents. Mais ils ne s'intéressent pas à contrôler les faux documents. Si ils sont servis d'un petit rien, ils laissent et les faux documents et la personne détenteur de ces faux documents. Qui est condamnable parmi ces deux gens?
Merci Malonga. Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachamba.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Avant de poser ma question, je voudrais faire une mise au point. J'ai aimé l'analyse du maître, mais seulement, selon la lecture faite à l'article 124, il y a deux conditions pour qu'il y ait foi en écriture. Il ne faut pas seulement qu'il y ait altération de la vérité, encore faut-il que cette vérité puisse porter préjudice à l'autre. Alors j'ai comme l'impression que le maître ne se limite qu'à l'altération de la vérité. Je vous donne un fait, qu'un agent de l'État trouve quelqu'un avec un faux document. Est-ce qu'il faudra l'arrêter? Non. Il faut encore prouver que le document a été pris à l'intention de nuire l'autre. C'est là le vrai faux en écriture. Alors je lui pose une question pour finir. Un juge qui modifie la minute du jugement d'une décision qui a été prise collégialement, délibérée, a-t-il commis les fautes en écriture ou pas? Je me résume en ceci. Les trois juges prennent en délibéré une affaire, une décision telle que la loi l'indique, mais à l'absence de ses amis, ils modifient les montants à allouer à titre de dommages et intérêts. Est-ce que ce juge a commis les fautes en écriture? Voilà ma préoccupation et ma question aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci Omar. Rachel Ndjounjou depuis Siro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions à poser à l'invité. La première, celle-ci, je voulais savoir si comment on saurait différencier le document si falsifié. Et la seconde, je voulais savoir si la loi ne sanctionne pas les gens qui fabriquent des faux bulletins pour les élèves, parce qu'on voit ces derniers temps, les élèves qui échouent, qui reprennent la salle et ils vont changer l'école pour acheter d'autres bulletins et monter ailleurs. Et maintenant, je voulais savoir si la loi ne sanctionne pas ça.
Merci. Adrien Amouyete de Lumbashi, bonjour. Adrienne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, j'ai trois petites questions à poser à Maître Raphaël Luko. Ma première est de savoir quelles sont les conséquences donc fâcheuses de la falsification des documents. Et ma deuxième question est de savoir quelle différence y a-t-il entre les faux en écriture et l'altération de la vérité. Et la dernière est de savoir, Maître Rifan, en cas de peur d'un document, par exemple, ton certificat a été brûlé lors d'un incendie et tu veux refaire encore cela, ce document, tu seras, je ne sais pas moi, coupable, ça sera les faux en écriture, l'altération, ou comment est-ce que vous pouvez appeler ça? Merci, Josie Daniel.
Merci, Adrien. Maître Rifan, vous avez
d'abord. Merci beaucoup, mais c'est beaucoup trop de questions, il n'y a pas assez de temps.
Allez,
très rapidement, en ce qui concerne la première question, comment arrêter l'hémorragie?
Oui.
Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est... Donc j'ai dit au départ que c'est parmi les infractions les plus réprimées par notre justice. Comment arrêter? Si la justice ne peut pas arrêter, qui va encore arrêter? Alors il faut donc la renforcer, la législation. Moi je propose en même temps, dans mes publications, qu'en ce qui concerne le faux, tout condamné au faux en écriture, qu'on ajoute une peine supplémentaire, ça veut dire la privation des droits, donc de l'exercice des droits publics pendant une dizaine d'années. Que tous ces faussaires ici, dont certains officiels que je connais, ne doivent plus accéder aux responsabilités publiques parce que tout simplement étaient condamnés pour faux. Donc ça, c'est principalement qu'est-ce que l'on doit faire pour arrêter l'hémorragie, c'est quelques projets.
Oui.
Je sais que c'est une hémorragie, il faut bloquer, et la formation, il faut former les gens.
Alors, il parle d'un chauffeur qui a des faux documents et l'agent qualifié l'arrête avec les faux documents.
En principe l'agent doit retenir les documents, les faux.
Mais il les laisse
partir. Par exemple, aujourd'hui, comme je disais, il est interdit que non, on ne délivre plus des permis de conduire.
Oui.
Hein, n'est-ce pas? Et on continue à en délivrer. Donc ces faux documents-là doivent être bloqués par les agents de la police.
Et qui est, évidemment, qui est condamné à ce moment-là?
Qui est condamné, c'est lui qui a délivré le document, c'est lui qui le détient, parce que c'est lui qui détient ces documents-là et qui l'exhibe devant l'officier de police, c'est-à-dire fait usage d'un faux. Et c'est la question que les autres ont posée, quelle est la différence entre faux et usage des faux?
Il y a
celui qui fabrique les faux, il est condamné, il est condamnable, et celui qui fait usage de ces documents-là, ça veut dire celui qui a fait les faux diplômes. Il est condamnable, mais celui qui part, il utilise ses faux diplômes, n'est-ce pas, pour être engagé quelque part ou bien pour que son grade soit évalué à la hausse, eh bien celui-là est coupable d'usage des faux.
Alors, Omar Kigalo nous dit qu'il faut, il y a un élément, il dit que vous n'avez pas mentionné un élément.
Omar, je constate que c'est un praticien et il me connaît certainement. Il sait que nous n'avons pas eu assez de temps, donc c'est beaucoup d'éléments. Et en ce qui concerne les ports de préjudice, je veux lui préciser que le ministère public, lorsqu'il arrête pour faux, le ministère public, lorsqu'il doit arrêter pour faux, il n'a pas besoin de savoir le préjudice. Ce sont les parties civilement, les éventuelles victimes qui vont se constituer partie civile. Mais le ministère public, lorsque lui constate qu'ici il y a un faux, il arrête d'abord. Donc il actionne l'action publique. Il commence l'enquête et
il va vérifier plus tard
pour s'apporter préjudice. Donc le faux entre le ministère public ou l'action publique est d'abord poursuivi dès que le ministère public constate qu'ici il y a un faux. S'il a les éléments pour constater qu'ici il y a un faux, eh bien le ministère public, par exemple les faux qui sont commis par les agents d'échange, les commissionnaires en douane et consorts, tous ces faux là, il n'y a que des bénéficiaires d'ailleurs. Par contre, les gens qui ont amené leurs véhicules et leurs histoires de l'étranger sont des bénéficiaires. Non. Oui. La victime, c'est généralement les pouvoirs publics ou les trésors publics. Donc, il n'y a pas nécessairement le devoir d'avoir la victime là-bas pour que l'action publique, n'est-ce pas, soit poursuivi. Donc, l'altération de la vérité, c'est la première condition. Et ensuite, il a demandé si un juge, voilà, nous téléphonons.
Il prend une affaire en délibéré avec ses collègues.
Si vous m'appelez, si vous m'apprenez après l'émission, monsieur Omar, je vais vous donner l'arrêt de la Cour suprême qui vient de condamner un juge qui a fait exactement ce que tu viens d'énoncer.
Qui a changé le montant.
La Cour suprême, non, lui n'a pas changé le montant. Il a changé, au contraire, les numéros de la parcelle. Donc, la parcelle portée sur, par exemple, 2. Lui a mis 2, 8. Et ça a tout bouleversé. Donc, pour des intérêts mesquins, parce qu'une partie avait des prétentions aussi sur le numéro 8, et il a convaincu ce juge-là de faire ça. Donc, la Cour suprême a déjà condamné. Il y a aussi un arrêt très célèbre, la Cour suprême, l'arrêt Bangama, là, la Cour suprême avait acquitté. Mais au moins, il y avait dans ce fait-là également la poursuite d'un juge qui avait changé les dispositifs du jugement après que le juge ait déjà signé le PV. Les PV, n'est-ce pas, de délibérer en ce qui concerne la décision qu'ils ont prise.
Alors, Rachel est revenue sur le faux bulletin. Vous avez dit, c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui fait l'usage de ces bulletins.
Tous sont coupables. Alors, elle a demandé quelles sont les conséquences. Elle a fait, la dame a demandé les conséquences d'un faux.
Oui.
Les conséquences, d'abord, c'est l'annulation. Le faux, dès qu'il est entrepris devant la justice, eh bien, on l'annule. Et les faits sont comme si ces documents n'ont jamais existé. Et puis, on condamne, c'est lui qui. Lorsque vous fabriquez un faux, vous courez de très grands risques. Et puis, j'ai toujours dit à tous, la fraude rattrape tout. Vous êtes un fraudeur, je me rappelle mes étudiants, il y a des étudiants qui ont échoué l'année passée, et puis on m'a informé, nos profs, ils sont déjà à 2100. J'ai dit, bon, ok, il peut aller à 2100 dans une autre université. J'ai dit, mais la fraude, elle attrape toujours, parce que finalement, donc, si lui va en 2100 dans une autre université, c'est que la première licence, il ne l'a pas fait, il n'a pas réussi. Le jour où il sera Premier ministre ou ministre,
ça va les rattraper.
Les opposants à lui, c'est détracteurs. Il sera rattrapé. D'ailleurs, nous avons un ancien Premier ministre qui a été rattrapé pour faux. J'ai beaucoup de circonstances. Un ancien Premier ministre a été rattrapé dans ce pays pour faux.
Oui.
Parce qu'à l'époque, il s'était proclamé professeur d'université. Et il enseignait à l'université de Kinshasa. Ça, c'est la jurisprudence. Et après, on l'a rattrapé. Il n'avait jamais soutenu une thèse pour qu'il soit professeur. La fraude, les faux, la rattrape.
Ça rattrape toujours.
Mais dans la vie, vous ne savez pas ce que vous deviendrez demain. Peut-être que vous serez un président de la République.
Oui.
Évitez les faux et la fraude dans ta vie.
Voilà. Et Adrien nous dit de Lubumbashi, lorsque vous avez un certificat d'enregistrement qui est brûlé, à ce moment-là, il faut
un duplicata. Non, un duplicata, on donne. Donc, le service de CADA, c'est lorsque vous donnez le PV de la disparition. Donc, votre plainte à la police que vous avez. Il faut toujours déposer une plainte contre un inconnu pour la disparition.
Oui.
Et la police va enquêter, il va vous remettre la copie de CPV, là, et vous irez pour faire constater. Il faut faire des avis de recherche comme moi. On m'a volé mon ordinateur, il y a tout dedans.
Oui.
Mes documents parcellaires, il y avait tout.
Vous êtes plaint à la police.
Je me suis plaint et la police fait cette enquête. Non, la plainte constitue pour vous la preuve que la chose c'est... Donc lorsqu'on vous remet ces PV-là de la police, il faut toujours vous plaindre parce que ce sont ces PV-là qui vous permettront ou qui permettront au service du cadastre de vous délivrer un duplicata de votre certificat. Donc, lorsque celui là c'est perdu, eh bien vous avez le droit, c'est seulement pour le diplôme d'État qu'on écrit que non, les duplicata ne peut pas être délivré. En tout cas, si concerne les autres documents, vous pouvez obtenir facilement votre duplicata.
On termine,
et d'ailleurs, pour le diplôme également, l'université peut vous délivrer une attestation de réussite.
Voilà.
Une attestation Tenali. Le diplôme, lui, va ainsi se perdre ou être volé, mais on peut vous délivrer, l'université peut vous délivrer s'il y a les preuves, il y a les archives que tu avais ici, on peut vous délivrer une attestation Tenali.
Voilà, on va terminer avec la question de Freddy Kapampa de Kindu. Quelle différence établir entre la falsification des documents et l'usage d'un document non authentifié?
Non, l'usage des documents non authentifiés, non. Là, il n'y a pas une faute. Les documents non authentifiés, ça veut dire, par exemple, l'université vous a donné votre relevé de cotes. Et l'université signe, mais le cachet, c'est tout. Mais si tu dois aller à l'étranger, ces documents-là doivent être légalisés. Ou si tu dois les produire en justice, ces documents-là, lorsqu'on
doit être légalisé,
ils doivent être certifiés ou authentifiés. Alors, les documents qui sont authentifiés, ce sont les documents qui sont signés à ces parties. Par exemple, les contrats de vente de véhicules, de maisons. Vous me vendez votre maison, eh bien, nous devons aller authentifier ces signatures-là et ces documents-là pour que le conservateur ou le notaire puisse certifier que ces documents sont des vrais et vos signatures sont des signatures volontaires parce que vous vous êtes convenus entre parties. Donc, l'authentification, les documents non authentifiés, lorsqu'on a fait ça, il n'y a pas une faute. Parce que ce document vrai, il n'y a pas l'altération de la vérité, sauf que ce document ne sont pas.
Alors, la sanction prévue par la loi, vous rappelez,
c'est 6 mois à 5 ans en ce qui concerne le faux en écriture et son usage. Mais lorsque ces faux-là sont commis et l'usage par les agents de l'État, tous les agents de l'État, c'est la peine pourra aller jusqu'à 10 ans. Et si c'est l'Azad d'État qui a commis le faux et délivre le document, eh bien, n'est-ce pas? Donc, ça ne sera plus les 5 ans, ça sera jusqu'à 10 ans. Donc, ceux qui travaillent à la présidence, à la primature, dans l'armée, et tout ce qu'il faut...
10 ans de prison ferme.
10 ans de prison ferme. Et moi, je demande que le Parlement ajoute la privation des droits civiques et politiques, parce que les fonctionnaires n'ont pas le droit d'exercer des fonctions publiques lorsqu'ils ont été condamnés.
Maître Rufin Louko, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe, merci et bon début de semaine.
Je vous en prie.
Au capé.